Je réfute totalement ce que tu
dis. Moi, c'est l'île de Courmoisie, au Cassandra. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, la crise de maîtrise du vent, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci d'être de nôtre sur la fréquence de la paix dans ce débat citoyen. L'Association de défense des droits des patients, ADP, plaide pour l'amélioration du système de santé et la mise en place d'un cadre légal qui sécurise les patients en République démocratique du Congo. Cette structure a pris cet engagement vendredi 19 décembre dernier au cours de sa sortie officielle à Kinshasa. L'ADP se fixe également comme objectif de lutter contre les inégalités constatées dans l'accès aux soins de santé de qualité. Alors, que pensez-vous de ce plaidoyer? Vous pouvez nous rejoindre à l'adresse pa@radiocapi.net et vous avez également la possibilité de nous appeler au 081 890 63 15 pour votre intervention en direct. Toute l'équipe est là pour vous tenir compagnie en ce 24 décembre 2014 où nous profitons d'ailleurs de présenter nos vœux de meilleur à tous les fidèles auditeurs qui nous ont accompagnés depuis le début de l'année jusqu'à ces jours. Alors, Willem Lungamba est à la machine. Thierry Lamegi réalise ce programme coordonné et présenté par J.R. Lungembo sous la supervision de Léonard Moulamba. Excellente condition d'écoute à toutes et à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net. Parole aux auditeurs, J.R. Nguembo.
Dans la loi fondamentale de la République, le constituant a tenu à réaffirmer son attachement, l'attachement de la République démocratique du Congo aux droits humains et aux libertés fondamentales telles que proclamées par les instruments juridiques internationaux auxquels elle a adhéré. Alors, le constituant a aussi intégré ses droits et libertés dans le corps même de cette loi fondamentale. Voilà, donc, sur l'exposé des motifs qu'il est ainsi stipulé. Nous en parlons donc, les droits aux soins de santé et de qualité et aussi les droits des patients, des personnes malades, comme vous l'avez si bien compris dans notre introduction. Nous avons dans ce studio Maître Elodie Mouzigiroy, qui est la présidente de l'Association pour la défense des droits des patients, ADP ASBEL. Elle est avec nous. Bonjour madame.
Bonjour.
Voilà, nous pensons que notre invité nous rejoindra d'un moment à l'autre, peut-être si jamais la réunion pourrait se terminer avant. Le secrétaire général à la santé, le secrétaire général AI. Nous commençons par vous poser la question, madame, en attendant d'ouvrir également les standards pour accueillir les auditeurs. Qu'est-ce qui a motivé votre association de pouvoir, au fait, faire ce plaidoyer?
Merci, monsieur JR. Bonjour, chers auditeurs. Ce qui a motivé notre association pour pouvoir mettre en place ce cadre, c'est au fait, c'est partie de la Constitution qui consacre le droit à la santé, qui est un droit fondamental. Et nous avons fait ce constat, le constat selon lequel le droit à la santé n'est pas garanti en République démocratique du Congo. Et c'est de par là que nous avons pu soulever quelques constats suite aux témoignages vivants ou entendus par-ci par-là, que nous avons, nous nous sommes assignés le devoir de pouvoir faire quelque chose dans le cadre de lutter pour la défense des droits des patients, à savoir l'accès aux soins qui est un droit élémentaire garanti par la Constitution.
Voilà, donc comme vous l'avez dit, la Constitution, sous l'article 47, stipule clairement que le droit à la santé et à la sécurité alimentaire est garanti, et la loi fixe les principes fondamentaux et les règles d'organisation de la santé publique et de la sécurité alimentaire, mais sur le terrain, en pratique, vous avez constaté quelques dysfonctionnements au niveau des systèmes de santé et aussi quelques discriminations, si je comprends bien votre intervention. Alors aujourd'hui, c'est vrai, le cadre légal dont vous parlez, à quoi consiste-t-il réellement?
Merci, monsieur JR. Avant de répondre, je vais y aller par une petite introduction en soulevant, monsieur JR, chers auditeurs, que dans l'exercice de leur fonction des médecins ou des autres personnels soignants, il y a bien entendu des obligations. Les obligations passent d'abord, mais il faut reconnaître que nos médecins et autres personnels soignants exercent dans des conditions particulièrement difficiles. Déjà, leurs études sont longues, et au bout de chaque année, il y a des stages. À la fin, il doit faire face, le médecin doit faire face à un jury très exigeant. Et donc, c'est un métier particulièrement difficile et à la fin, ils sont obligés d'exercer dans des conditions difficiles. Ça, c'est un fait. Mais à côté de cela, comme dans tous les autres domaines, dans tous les autres métiers, il y a une exposition. Les médecins sont exposés à commettre des erreurs. Et ces erreurs peuvent être commises par imprudence, par négligence, par inadvertance ou par inattention. Et c'est comme ça que, face à cela, il y a de l'autre côté les bénéficiaires, donc les patients, qui doivent être informés de leurs droits, informés de leurs droits, de comment se défendre, comment dénoncer, comment réagir suite à un fait ou un autre qui peut être constaté.
Un délit commis par un médecin.
Et c'est dans ce cadre-là que nous avons créé l'ADP, l'Association de défense des droits des patients, qui sert de cadre d'information, des dénonciations, mais aussi des conciliations, parce qu'il peut y avoir des cas où le personnel soignant, les médecins paramédicaux, sont en discordance avec les patients. Et donc, l'ADP peut servir des cadres pour une conciliation, pour un dénouement en toute équité. Voilà.
Alors, donc, je crois que à ce niveau, parce que donc, hein, je pensais que en RDC, le système de santé reste encore l'objet de beaucoup de polémiques, mais certains observateurs pensent ou estiment que effectivement, par rapport à ce que représente aujourd'hui le système de santé, nous avons intérêt à être fiers parce que nous avons des infrastructures qui répondent quand même à certains standards internationaux. On peut citer les cas de Galima, l'hôpital cinquantenaire et tant d'autres qui offrent, au fait, par rapport à des spécialités, hein, disons, l'occasion aux patients d'entrer en contact avec des médecins, en tout cas expérimentés. Alors, donc, aujourd'hui, c'est vrai, il y a d'aucuns qui pensent aussi que des erreurs sont de moins en moins enregistrées dans le pays. Donc, la défense des droits des patients, ça ne vaut vraiment pas son présent d'or. Est-ce que vous partagez cet avis?
Pas du tout. Pas du tout, messieurs Gir, chers auditeurs, je ne suis pas de cet avis, d'autant plus que à ce jour, il y a bien d'insuffisances, il y a une insuffisance qu'il faut corriger dans les systèmes sanitaires congolais. Nous n'avons pas une loi sanitaire, il n'y a pas une codification importante dans les domaines. Et comme vous dites que c'est suffisant parce qu'il y a moins d'erreurs, c'est faux. Permettez-moi, je parle bien sûr sous le contrôle des experts, parce qu'il y a plusieurs rapports qui ont été publiés. C'est faux parce que les soins de santé primaires ne sont pas garantis aux Congolais.
Surtout par des visages.
Surtout,
les erreurs,
elles sont commises, elles sont inévitables. Parce que
la nature humaine
est rarum manu est, dit-on. Et cela, ça croit ou ça sentit par le fait qu'il n'y a pas il y a de l'impunité dans les domaines. Il y a de l'impunité dans les domaines. Les patients est vraiment laissé à qui se vouer face à ces erreurs-là qui sont commises. Et on ne peut pas dire que parce qu'il y a des centres de santé qui ont été construits, l'hôpital du Saint-Catherine, bien sûr, nous saluons ces initiatives. Mais qu'est-ce que ça représente pour un pays à dimension continentale? Seul noté 3%, moins de 5%, à peu près 3,5% du PIB national représente les dépenses, sont responsables des dépenses de santé. Et donc, que pouvez-vous espérer avec ces faibles taux de couverture sanitaire?
La preuve en est que même certains observateurs pensent que aujourd'hui, le fait de ne pas compter un nombre suffisant des médecins légistes déjà ça prouve insuffisance, disons, le taux faible de l'intérêt qu'on accorde à la protection des patients. Parce que vous allez dans les hôpitaux, c'est vrai, on n'en trouve pas assez, et même quand il y a des cas qui nécessitent l'intervention des médecins légistes, c'est vrai, souvent des problèmes ne sont pas pris à bras les corps, et déjà il y a une certaine lenteur même pour au fait établir certaines vérités dans certains dossiers. Est-ce que c'est là aussi les cas, vous y avez pensé?
Là, c'est un des faits parmi tant d'autres qui doivent être déplorés. Parce que je vais les soulever ici, monsieur J.R., chers auditeurs, l'ADP, l'Association des défenses des droits des patients, a entre autres mission d'interroger l'État. D'interroger l'État sur les dysfonctionnements, sur sa responsabilité vis-à-vis des citoyens, sur toutes ces questions qui remettent en cause les soins de santé de la population congolaise. Parce que pour une question aussi vitale, aussi importante que celle portant sur la santé, parce que tous on est constamment concernés, au premier, on est concerné, et parce que on est au premier plan, on ne peut pas comprendre qu'il y ait une rigueur dans quel sens, une rigueur dans le sens de la mise en place d'un cadre légal qui sécurise les patients. Parce que qu'est-ce qu'on constate, monsieur J.R., qu'est-ce qu'on constate, c'est, je ne dirais pas, je ne parlerai pas d'anarchie, parce que quand même il y a des normes, mais qui ne sont pas observées. Le contrôle n'est pas exercé. Vous rencontrez des centres de santé, vous rencontrez des pharmacies qui ne répondent à aucune norme d'hygiène sanitaire ou de santé, qui ne répondent. Vous rencontrez des pharmacies, des médicaments qui sont vendus à
dans un autre terme, le système de santé de la RDC est défaillant.
Le système de santé de la RDC est défaillant, nonobstant les efforts qui sont en train d'être mis.
Qui ne représentent absolument rien.
Et qui doit faire
même
comprendre.
La part allouée au budget.
Oui, 3,5% à peu près de PIB national. Et donc, c'est pour ça qu'il faut que l'État comprenne qu'il est le responsable numéro un de ce système de santé, ou de cette défaillance, ou de cette.
Mais c'est plaidoyer, vous le faites auprès du gouvernement, ou peut-être auprès de l'autorité, donc des législateurs, je voulais parler des députés.
Il y a de tous les côtés. Avec nous sommes prêts à proposer
une loi
des propositions concrètes au gouvernement. Nous sommes prêts, bien sûr, nous allons travailler, parce que nous avons déjà eu plusieurs députés et sénateurs, divers honorables députés et sénateurs qui nous ont contactés. Nous sommes prêts à collaborer, nous allons d'ailleurs collaborer avec les législateurs pour que ces cadres légaux soient mis en place.
On reviendra à vous pour nous faire une idée sur les dispositions prévues par vos propositions en ce qui concerne cette loi, mais le temps d'ouvrir les standards et accueillir quelques auditeurs qui vont intervenir dans cette émission pour au fait réfléchir avec nous autour de ces systèmes de santé de la RDC qui, en tout cas selon certains observateurs, restent défaillants, surtout par rapport à certains aspects que nous constatons liés aux erreurs commises par des médecins à l'endroit, dans la compte de patients, et ces erreurs qui sont impunies et dans le non-respect des droits fondamentaux des personnes malades. Maurice, vous êtes à Kinshasa, gardez la ligne. 081-890-6315 pour votre intervention en direct. Spécial Noël sur Radio Okapi avec Serigola. Retrouvez ce jeudi 25 décembre 2014 de 20h à 21h le concert de Serigola à la salle 1789 Paris. Un cadeau signé Radio Okapi. Serigola sur la fréquence de la paix ce jeudi 25 décembre 2014 de 20h à 21h, heure de Kinshasa, juste pour votre plaisir. Joyeux Noël à tous.
C'est la part des chairs des poules.
Voilà, merci de votre fidélité à Radio Okapi. Nous poursuivons avec parole aux auditeurs, votre magazine d'échange citoyen avec Maurice, qui est à Kinshasa. Maurice, bonjour.
Oui, bonjour Pierrot.
C'est tout ce que j'ai
la parole que vous m'accordez. J'étais un peu, en fait, ça peine que je viens de me brancher à l'émission.
Voilà, alors nous vous gardons, Maurice, on prend plutôt Docteur Alain qui vient de nous rejoindre, comme ça vous allez vous faire une idée. Docteur Alain, bonjour.
Oui, bonjour, JR.
Vous avez la parole, Docteur Alain. Quel est votre point de vue?
Ah oui, bon, je vais d'abord apprécier l'initiative de madame, l'invité. D'entrée de jeu, je trouve que elle est plus se pencher à l'intérêt du malade, puisque dans notre société, il y a un problème. On ne veut pas attaquer, on ne veut pas aller attaquer la cause, mais on veut juste aller en dehors de la cause. Or, c'est ça, un mauvais problème. D'abord, les médecins, quand ils prennent en charge leurs patients, ils les font avec toute confiance. Et puis, ils mettent tous leurs efforts à travailler sur le patient.
Oui, docteur Alain, parce que vous êtes du domaine, est-ce que vous pensez, par rapport à des déclarations des uns et des autres, que le système de santé de la RDC est défaillant jusque-là, parce que ça ne donne pas, au fait, l'occasion aux malades ou aux Congolais d'avoir accès aux soins de santé de qualité?
Bon, dire que le système de santé congolais est défaillant, c'est dire trop, puisque on risque de se contredire, puisque nous avons vu ici, il y a eu l'épidémie d'Ebola. Le système de santé que nous avons, il s'est battu, il a contenu Ebola dans son bastion. Alors, dire que c'est un système défaillant, ça, ce n'est pas ça. Donc, ce que nous, on peut dire, c'est quoi? Les problèmes de santé concernent d'abord tout le monde, le patient et le médecin.
Mmh.
Si le Congolais lui-même n'a pas pris conscience de sa santé, c'est comme ça qu'il va voir que le système est défaillant, puisque nous là.
Oui, il était de faire oui, l'air, parce que nous savons que l'article 47 de la Constitution, en fait, tiré du titre 2 des droits humains, des libertés fondamentales et des devoirs du citoyen et de l'État, stipule que le droit à la santé et à la sécurité alimentaire est garanti, et la loi fixe les principes fondamentaux et les règles d'organisation de la santé publique et de la sécurité alimentaire. Est-ce que tu peux, est-ce que vous pouvez à votre niveau nous dire quels sont ces principes fondamentaux? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a eu des mesures qui accompagnent cette disposition?
Bon, c'est que notre pays a des bons textes légaux, hein, puisque on peut bien nous les lire, c'est bien enjolivé, il y a de belles phrases, mais en pratique, ce qu'il y a, ce n'est pas ça. Hein. C'est comme à l'église, on peut prêcher, on prêche sur la vie chrétienne, mais au fait, quand on quitte juste l'église, on oublie ce qu'on a prêché. Donc c'est ça. Mais ce qui est là, j'ai souligné un grand mot là-bas, c'est donc la santé, c'est une affaire de tous. Il faut d'abord que le Congolais lui-même prenne conscience, comme la conscience elle est en train de se réveiller comme ça. Donc que les Congolais.
Bah oui, quand il s'agit d'offrir à l'aide des erreurs commises par le médecin, soit par inadvertance ou encore par négligence, les patients sont souvent abandonnés à leur successeur. Ils ne savent plus à quel point c'est voué et ils n'ont pas de défenseurs.
Bon, vous savez, dire que les médecins, ils font des erreurs, oui, les erreurs, elles sont là, mais on travaille là-dessus pour ne pas avoir, pour ne pas commettre des erreurs. Puisque en médecine, dès que vous avez commis une erreur, la réparation peut ne pas marcher et le résultat final, c'est...
Non, en cas de décès, quelle réparation?
En cas de décès, vous allez solder
oui.
Au cimetière.
Voilà, merci beaucoup, Dr. Alain. Dr. Alain, merci d'avoir accepté de contribuer dans cette émission. On revient à vous, Maurice. Bonjour.
Oui, bonjour, Gérard Mungem. Merci de m'avoir associé à ce débat. Je pense que, d'abord, je ne partage pas... l'analyse de médecin qui vient d'intervenir juste après moi, avant moi, dans la mesure où il ne reconnaît pas que le système est défaillant dans le pays. J'ai suivi, madame, l'intervention que j'ai suivie, l'extrait de l'intervention que j'ai suivie de madame qui serait votre invitée. Elle a reconnu qu'il y a un problème réel, et ce problème, le premier responsable, c'est l'État congolais. Nous pouvons comparer ce qui se passe ici, par exemple, à un pays comme le Gabon. Vous allez dans un pays comme le Gabon, l'accouchement des femmes, c'est gratuit. Le traitement des maladies d'origine hydrique, des paludismes, des petites maladies qui sont même à la base de la mort ici, au Gabon, c'est gratuit. Mais alors, lorsqu'on dit que c'est l'État qui est défaillant, madame a raison. Parce que l'État doit mettre des conditions de sécurité pour garantir la bonne santé.
Mais oui, mais Maurice, vous voulez que l'État,
gouvernement ou quel État doit normalement exercer.
Mais Maurice, alors, Maurice,
vous allez comprendre que dans d'autres pays, si vous voyez, vous pouvez passer beaucoup de temps. Par exemple, dernièrement, j'étais en Afrique du Sud. Je passais beaucoup de temps dans mon quartier. Je n'ai pas entendu quelque part on pleurait les cadavres, tout ça. Et on me disait à chaque fois quand je posais cette question, on me dit non, ici les gens, soit il est tombé, il est mort de sida, soit des cirrhoses de foie, des petits trucs. Mais des histoires de maladies où, qui sont de manière régulière en fait, dans la société, mais c'est l'État qui doit prendre en charge. Raison pour laquelle même hier, quand j'intervenais par rapport à la structure, la nouvelle structure qu'on a mis,
oui, les conseils
économiques, sociaux, tout ça, ce sont des misères qu'on doit affecter, par exemple, à la santé, pour garantir, par exemple, les soins de santé,
gratuits,
par exemple, pour des femmes enceintes, des femmes qui vont accoucher, et des personnes, par exemple, qui sont malades de paludisme, de maladies d'origine hydrique, tout ça, c'est l'État qui doit prendre en charge cette catégorie de malades.
Oui,
mais lorsque un État sérieux ne peut pas le faire, plutôt un État, par exemple, le nôtre aussi, moins sérieux, un État vraiment désarticulé de tout, ne peut pas mettre cela.
Non, non, je crois que le minimum de respect par rapport à vos propos,
alors, vous réfléchissez qu'on peut affecter dans ce genre de structures, de conseils, de ceci, de ceci, ou d'organisations des droits de l'homme, des conseils nationaux, tout ça, c'est de l'argent.
Maurice, s'il vous plaît, en fait, écoutez Maurice. Maurice.
Mais c'est l'argent réellement qui doit être affecté aux problèmes de santé des Congolais.
Voilà, Maurice, est-ce qu'on peut vous poser une question de relance, là, s'il vous plaît?
Tout à fait.
Voilà, alors je disais, pour vous, l'État est défaillant du fait qu'aujourd'hui, la population n'a pas accès aux soins de santé de qualité. Vous n'avez pas à trouver une nécessité à l'installation, par exemple, d'un conseil économique et social. Cet argent, on pouvait l'affecter directement pour le droit à la santé de la population, c'est-à-dire sécuriser la population dans ces domaines. Mais plutôt que payer à d'autres personnes. Ben alors Maurice, c'est vrai aujourd'hui, nous sommes quand même un pays qui représente à 6 pas au maximum, mais au minimum, un système de santé qui au fait fait diaser, qui fait quand même des jaloux hein, en Afrique.
Je n'ai pas suivi juste à la fin, qu'est-ce que vous avez dit, juste à la fin?
Voilà, donc nous avons quand même un système de santé qui est apprécié par les voisins ou encore d'autres pays africains.
Je pense que c'est l'image d'antan. Et ça, je vous le concède. Je pense que peut-être vous avez un problème au niveau des contextes, au niveau plutôt d'abord des époques. À une certaine époque, oui, là, je vous le concède. En Afrique du Sud, par exemple, il y avait des malades vers les années 80, 75, 76, les malades qui quittaient l'Afrique du Sud et qui venaient ici. Et aujourd'hui, quels sont les malades et quel est le pays qui nous envoie des malades dans ce pays? Il n'y en a plus. Hein? On ne peut pas, en fait, on ne peut pas avoir un système politique défaillant avec, à côté d'un système de santé normal. Au point.
Non, ça c'est vous qui le dites. Je ne sais pas quel niveau de cette défaillance politique.
Non,
écoutez, Maurice. Je le vois aucun lien de la défaillance politique à la défaillance sanitaire. Bon, je ne sais pas. Fais-moi des bonnes politiques, je te ferai. Je ne sais pas. Vous aimez bien le dire, vous, les juristes, et encore d'autres personnes à inviter par rapport à cette question. Mais Maurice, je crois qu'à ce niveau, nous l'avons dit, madame est en train, avec tous les autres, de mener une action pour défendre les droits des patients. Merci beaucoup. On va prendre quand même Gérard qui est à mon avis. Tout Gérard, bonjour.
Bonjour, Gérard. Bonjour à votre invité ici. Tous ceux-là qui suivent les auditeurs de la radio Okapi. Nous nous disons ceci, la santé c'est l'affaire de tous et c'est très important. Même la parole de Dieu n'a pas oublié cette histoire parce qu'il est écrit que je souhaite que vous soyez en bonne santé et que vous puissiez prospérer à tous égards. Alors, le problème ici chez nous au Congo, on ne veut pas reconnaître ce qui est réel et palpable, ce qui est visible et palpable. Les médecins sont là, ils ont la science, ça c'est vrai. Mais quelque part, si un médecin intervient, peut-être il a peur de toucher au nez du problème. Et nous, qui sommes des patients, nous pouvons en parler. Les médecins sont maltraités au Congo, chez nous. Ils ne sont pas payés. C'est ainsi qu'ils n'ont pas cette conscience. Comment voulez-vous qu'on peut amener un patient à l'hôpital? Avant de les soigner, on demande d'abord l'argent. Et ce patient-là n'est pas payé. Il est impayé. Il n'a pas l'argent. D'où, comment on peut les soigner à ce moment-là? Il est abandonné à son propre sort. Celui qui parlait avant, l'autre qui vient de terminer, je ne partage pas son point de vue. Parce qu'il disait que c'était un médecin, il disait que les patients doivent prendre conscience. Est-ce que quelqu'un peut se souhaiter être malade? Ou celui qui est malade, il peut s'oublier qu'il est malade? On est conscient qu'on est malade, mais on se retrouve qu'on est impuissant pour faire face à ce qui est exigé comme frais de santé. Ça nous coûte cher, on peut faire des bâtiments. Dans ces bâtiments-là, il n'y a pas de produits, où il y a des spécialités, et qui coûtent très cher. On ne sait pas faire face à ça. Faut pas se faire soigner. On est conscient qu'on est malade.
Alors Gérard, donc si je comprends bien, parler de patience et parler ictopacto du médecin, donc on ne peut pas dissocier les deux, donc ils sont indéfiniment liés, c'est ce que vous dites. Donc le moment où on met l'accent sur le droit à la santé, le droit défense des droits des patients, on doit aussi tenir compte de traitements que doivent bénéficier les médecins, c'est-à-dire l'État doit être aussi regardant. Hein, si on demande aux médecins de fournir plus d'efforts, hein, de bien soigner, de donner, l'accès aux soins de santé de qualité à toute la population, il faudrait que ces médecins puissent aussi être mis dans de bonnes conditions pour arriver à exercer en toute responsabilité. Merci beaucoup Gérard, à moins que vous ayez autre chose à ajouter.
Effectivement, ce que tu dis, c'est ça, le médecin doit être bien traité, comment il peut bien soigner si chez lui il y a des problèmes aussi. Peut-être il a aussi des malades chez lui qui ne sait pas traiter parce qu'il n'a pas l'argent pour les faire soigner.
Voilà,
la science là qui ne sait pas appliquer à cause de cela.
081-890-75 pour votre intervention en direct.
Parole aux auditeurs.
Voilà, madame Elodie Mouzé-Guirois, vous êtes l'ADP avec un plaidoyer autour de la défense des patients. En tout cas, aujourd'hui, vous avez suivi les uns les autres. Il y a plusieurs, en fait, préoccupations qui sont dégagées. Hein. Les uns parlent de respect aussi des droits des médecins qui doivent être normalement le leitmotiv, le point qui pourrait pousser quand même le médecin à pouvoir respecter les patients et d'un côté. Et de l'autre côté, il y a ce que vous appelez aussi les cadres légaux, mais lequel c'est bon, en fait, il y a un peu quelques doutes, parce que nous avons des beaux textes. Il y a l'article 47 qui dispose qu'effectivement le droit à la santé est garanti, mais dans la pratique, il n'y a rien. Que répondez-vous aux uns aux autres?
Merci beaucoup, JR. Je vais d'abord dire une chose. Le peuple congolais, la population congolaise, est vraiment fait face suite à la précarité de la vie. Des services précaires, les services publics qui lui sont offerts sont précaires dans tous les domaines. Et il fait face à cette précarité qui l'a mis les compatriotes au point de leur enlever l'attention à la sécurité, les normes et les standards minima. Et là, je vais aller tout droit sur ce que l'intervention du docteur Alain. Il appelle les patients à la conscience, à la prise de conscience. Eh bien, il est temps que les patients prennent conscience. Ça veut dire connaître qu'ils ont des droits. Ils ont des droits vis-à-vis d'un fait qu'on a évoqué, d'un abus, d'un cas qui peut être dénoncé dans le cadre de d'accès aux soins vis-à-vis de son médecin. Et là, je vais insister sur le fait que les patients ne doivent pas subir l'humiliation en allant se faire soigner. Or,
L'humiliation consiste en quoi? Qu'est-ce que nous observons dans nos centres de santé, dans nos hôpitaux? Vous avez rendez-vous avec un médecin à 8 heures, il vient à 14 heures ou à 12 heures, sans vous présenter des excuses ou quoi que ce soit. Vous arrivez, vous êtes en pleine consultation, il répond peut-être au téléphone, vous êtes en train de vous faire soigner, vous arrivez à un hôpital, l'infirmier ou les réceptionnistes vous regardent comme si vous tombiez du ciel. Eh bien, il y a bien des choses qui méritent d'être dénoncées et pour lesquelles les patients doivent prendre conscience. Ça, c'est un fait. Et par rapport à tout ça, vous imaginez que... Par exemple, une dame qui accouche des jumeaux, et au cours de l'accouchement, un bébé sort, l'accoucheuse le donne à sa collègue infirmière, qui, au même moment qu'il passe le bébé à sa collègue infirmière, son téléphone sonne. Elle fait le manœuvre pour sortir son téléphone de son blouson et du coup, le bébé tombe et meurt sur les champs. Vous imaginez que bien qu'il y ait une législation, bien sûr, ou bien qu'il y ait la loi, il n'y a pas de loi, mais bien qu'il y ait
cette disposition
constitutionnelle qui consacre
le
droit à la santé, il faut que qu'une loi, comme on a une loi douanière, une loi fiscale, qu'une loi, un cadre légal puisse être mis en place pour réglementer tout cela. Les réponses, par exemple, au téléphone, au cours d'une consultation, au cours d'admission des soins, tout ça, ça ne peut qu'être réglementé dans un cadre légal. Ça, c'est un fait. Ça, c'est par rapport aux patients.
Oui, là, c'est pour fixer les réalités.
Maintenant, par rapport aux médecins, qui n'ont pas un bon traitement. Ça, c'est là que nous avons dit l'État, c'est le premier responsable. Nous ne demandons pas aux médecins de recevoir tout le monde à l'hôpital sans qu'il y ait un seul rond qui soit payé. Parce que même quand on parle de gratuité, quelque part, il y a quelqu'un qui paye. Même quand on parle de gratuité,
soit la mutualité,
les assurances, l'État, ou les bénéficiaires, il y a toujours quelqu'un qui paye. Et on ne demande pas, c'est trop leur demander, nos médecins, d'accueillir tout le monde dans les hôpitaux sans qu'il y ait vraiment.
Ils sont longtemps dans les sacs, dans les serments d'Hippocrate, à ne rien demander comme poids rouge.
C'est ça. Alors que vous avez soulevé quelqu'un qui dit, au moment où eux-mêmes n'ont pas de quoi payer. Mais là, je voudrais qu'on comprenne le fond de ma pensée. Au-delà de ces faits qui peuvent être évoqués, au-delà de ces multiples faits qui peuvent être évoqués, il y a l'éthique, il y a la déontologie médicale qui doit être observée. Ça veut dire quoi? Il faut que le médecin se sente, ou le médecin et le personnel soignant, se sentent, soient exigeants vis-à-vis d'eux-mêmes. Vis-à-vis d'eux-mêmes qu'ils considère vraiment les patients comme au centre de tout intérêt et non le faire subir l'humiliation au moment où ils cherchent à aller se faire soigner. Parce que quoi qu'on dise, tous on est appelé à aller un jour ou l'autre à l'hôpital, même le médecin eux-mêmes. Mais vous vous rendez compte, si le système ne protège pas ou ne sécurise pas les patients. C'est l'arbitraire
peut-être pour lui, ce sera la solidarité du métier, les gens, les autres médecins.
Il y a ça. Comme M. Gilles, je venais de le dire, nous avons des propositions à faire vis-à-vis de ça. On n'a pas attaqué que les conséquences. On a abordé aussi des causes et on a cherché des solutions.
On va y revenir dans le dernier quart d'heure de cette émission pour orienter les uns et les autres. Mais on repasse de l'autre côté du standard avec Dr. Richard Kieta Kinshasa et Raphaël Akamina. Dr. Richard, bonjour.
Bonjour à madame, meilleurs voeux à tout le monde.
Meilleurs voeux
à tout
aussi.
Le monde qui a parlé.
Voilà, nous la régissons. Merci, Dr. Richard. Votre point de vue.
Je commence par une petite introduction en disant que notre système de santé a été publicité comme étant le meilleur système de santé à Alma-Ata en 78. La délégation congolaise était conduite par le feu professeur
Moussa.
La subdivision que vous avez aujourd'hui sur le plan sanitaire des districts de santé ailleurs, chez nous, ce sont les zones de santé, était la meilleure. C'est toujours la meilleure jusqu'à aujourd'hui. Mais le problème se pose à quel niveau? Le problème se pose au niveau des animateurs et des acteurs, c'est-à-dire des acteurs qui viennent chercher les soins de santé. Parce que, jusque-là, on ne fixe pas, on ne donne pas au contenu des soins de santé une orientation qui puisse aider, par exemple, la population à se prendre en charge. On est plus dans une médecine médicamentalisée, si on me permet, ce néologisme. Mmh. On croit que la médecine, la bonne santé, c'est le médicament contre la maladie. Mais on n'agit pas en amont. En amont, c'est quoi? Parce qu'on dit la santé, ce n'est pas nécessairement l'absence de maladie, mais c'est un état complet de bien-être. Là-dedans, il y a l'habillement, l'alimentation, même le logis, etc. Alors, je donne un exemple. Lorsque vous prenez une boisson artificielle, l'État n'a pas dit que ça c'est artificiel, ce n'est pas marqué. Les colorants, nous savons qu'il y en a des mauvais dans les boissons, ça donne le cancer. Vous voulez que demain, la population se soigne contre le cancer, pourquoi? Pourquoi ne pas agir en amont? Par exemple, lorsque on admet les biscuits, les wafers, les cakes, dont ils sont des huiles hydrogénées, on sait que ça fait des maladies cardiovasculaires. Même au fœtus qui est en formation chez sa mère. Vous voulez quelle médecine? Il faut qu'on agisse en amont, plus qu'en aval. Parce qu'en aval, c'est la thérapie. S'il y a un cancer, on coupe le membre, on jette. C'est très facile. Mais la prévention, c'est ce qu'il faut, la prévention. C'est de deux. Est-ce que notre système de santé fait que les acteurs que j'appelle les animateurs principaux, ceux qui sont dans l'opération connue, échangent entre eux? Avez-vous déjà entendu les kinésithérapeutes en réunion avec le médecin? Avez-vous déjà entendu les médecins en réunion ou en congrès avec les agriculteurs pour pallier à des problèmes qui sont en train de faire la population? Qu'est-ce que l'empoisonnement par les...
Oui, mais docteur Richard, vous êtes sans ignorer qu'il y a eu des états généraux qui ont été organisés, les états généraux à la santé. Et toutes ces questions étaient évoquées là-dedans il y a quelques années. Nous avons tous assisté à ces états généraux. Mais aujourd'hui, toutes les recommandations sont restées dans les tiroirs.
Oui, les recommandations parlent des personnes, tu vois, de la même manière. Et non de façon multisectorielle. C'est ça. Pas entendu un médecin réclamer qu'à une réunion pour évaluer, par exemple, le déclin de carence en vitamine A des enfants de 0 à 5 ans, réclamer la présence des ménagères. Ça, je n'ai pas entendu. J'ai posé la question au docteur Daniel qui m'écoute, bonne année à lui. Pourquoi à la réunion de Vénus, il n'y avait pas des agriculteurs, il n'y avait pas des ménagères, etc. Parce que pour le problème de carence en vitamine A, c'est un problème qui se passe.
Voilà, docteur Richard, si je comprends bien pour vous, cette question autour de la santé est une question transversale. Il faut associer les uns et les autres pour pouvoir dégager quand même certaines solutions. Mais pour les cas d'espèce, parce que nous parlons de la défense des patients, ces malades, nous sommes à l'étape, en tout cas, finale. Au finish, donc, quelqu'un qui est arrivé à l'hôpital faute d'une bonne prise en charge médicale, peut-être soit par une erreur médicale ou encore un soin de santé qui n'est pas de qualité, qui fait que la personne peut être victime. Alors, aujourd'hui, à qui elle comblerait la responsabilité? Au médecin. Mais si ce médecin n'accepte pas, au fait, cette erreur ou ce fait qui est commis, alors là, le cas reste impuni. Et raison pour laquelle, aujourd'hui, certains observateurs plaident pour un cadre légal, c'est-à-dire la mise au pied d'une loi. Est-ce que vous partagez cet avis?
Oui, le cadre légal ne sera compris que si plusieurs acteurs y mettent le nez. C'est-à-dire quoi? Vous savez qu'il y a des enfants aujourd'hui qui sont, non, des adultes qui sont abîmés par les bancs de l'école primaire. Alors maintenant, le cadre légal parle de quoi? Si on n'intervient pas au niveau de la fabrication des bancs, dans ceux qui reçoivent les enfants avec des bancs, disons des adultes qui ont été abîmés parce que les bancs les avaient détruits. Vous allez agir où? Ça sera des actions, comme on dit, trompées.
Merci beaucoup, docteur Richard, d'avoir appelé de Kinshasa et dans la colline inspirée. Raphaël, vous êtes à Kamina. Bonjour, Raphaël.
Bonjour, monsieur Gia.
Quel est votre point de vue, Raphaël, après avoir écouté les uns les autres qui vous ont précédé?
Vraiment, merci beaucoup pour la parole et merci à tous les auditeurs. Concernant le système de santé dans notre pays, vraiment, nous déplorons la manière dont l'État agit d'abord pour le cas de la santé. L'État donne de l'argent, mais l'État n'a pas de suivi pour la santé. Je vais commencer par parler des cas de l'accident qui nous a quitté ici à Kamina. Kamina Katongola, l'accident qui est passé à Kamina vers Katongola. Le ministre est venu vraiment pour ne pas rien laisser des malades jusque là quand nous parlons. Ils sont encore à l'hôpital. Vraiment, c'est regrettable. Vous allez à l'hôpital la nuit avec des malades. Pas de médecins qui vont monter vraiment les nuits. Il n'y a vraiment rien à Kamina comme santé.
Merci beaucoup, Raphaël. Fidèle, vous êtes à Calémie. Bonjour.
Bonjour, bonjour, monsieur, bonjour.
Vous avez la parole, Fidèle.
Merci beaucoup. Premièrement, je dis meilleurs vœux à tous les auditeurs de la radio Okapi. Ma contribution est celle-ci, puisque je vois le problème de santé ici à Calémie. Nous déplorons beaucoup. Nous déplorons beaucoup pourquoi? Lorsqu'on arrive à l'hôpital, peut-être hôpital de Calémie, vous êtes malade, mais vous payez de l'argent pour que vous ayez des médicaments appropriés pour cette maladie.
Mm-hmm.
Mais on vous donne le médicament, vous souffrez peut-être de la malaria, mais on vous donne d'autres médicaments qui ne seront même pas des médicaments qui vont traiter cette maladie de malaria. Alors c'est déplorable. Je pense poser la question.
Oui, je comprends bien vous déplorer. Vous déplorez cette insuffisance des circuits pharmaceutiques dans notre pays qui ne fonctionnent pas, en tout cas à plein régime. Aujourd'hui, il y a certains coins ou certaines zones de santé qui éprouvent énormément de difficultés pour accéder à ces circuits pharmaceutiques. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, les problèmes se posent avec acuité dans l'hôpital général, l'hôpital de référence de Calémie, où les malades n'ont pas accès aux soins de santé faute de produits. Pharmaceutique. Alors, merci beaucoup, Fidèle. On va réfléchir avec vous, Jules, tout à l'heure. Donc, nous vous gardons en ligne. Madame Elodie, Maître Elodie Mouziguiroy, vous êtes l'initiatrice de cette association pour la défense des droits des patients. Après avoir constaté beaucoup de faits, en tout cas beaucoup d'abus commis par des médecins qui sont restés impunis. Et maintenant, vous voulez que les patients puissent rentrer dans leurs droits et aussi prendre conscience qu'ils ont effectivement des droits.
Bien
alors,
sûr.
Vous venez de suivre cette longue deuxième série des auditeurs. Comment vous réagissez?
Merci beaucoup, monsieur JR. Il a été vraiment long, cette deuxième série. Mais je vais insister sur un fait qui vient d'être évoqué par les auditeurs, ou si pas tous. Vous sentez que la responsabilité est rejetée vers l'État congolais. Mmh. Qui est l'acteur numéro un, si je peux le dire, à côté, les médecins, c'est l'acteur numéro un principal, mais l'État de l'autre côté et les bénéficiaires de soins de l'autre côté. Et par là, monsieur J.R., chers auditeurs, je voulais attirer l'attention par le fait que tout ce qui vient d'être évoqué ne doivent pas faire à ce que des choses intolérables puissent être observées. Et donc, des cas, parce que l'État n'a pas un paquet suffisant pour les santé, pour les domaines de la santé, cautionner des hôpitaux insalubres, par exemple, et le fait parce que un médecin n'est pas bien payé ou un personnel médical n'est pas bien payé, qu'il puisse exercer ou mettre en danger les vies humaines, le fait pour les patients, parce qu'il n'a pas assez de moyens, puisse rester sans dénoncer les abus auxquels il fait face. Tout ça ne doit pas être cautionné. Mmh. Et c'est pour cela que nous avons pensé, et nous avons dans notre plan, un travail qui doit être fait en amont, un travail d'information, un travail de lobbying, interpeller l'État congolais. Aujourd'hui, on est dans un État qui se veut moderne. Mais vous savez, monsieur JR, qu'il y a dans des hôpitaux qui reçoivent des analyses médicales, des examens, qui donnent des résultats, mais qui transmettent des résultats d'un autre malade.
Tout à fait.
Des échantillons qui ont été prélevés sur un malade, des résultats sortent, mais on les affecte à un autre malade.
Or, à ce jour, il y a la nouvelle technologie de l'information et de la communication. Il y a des mécanismes qui doivent être mis en place. Et par là, parce que lui a parlé, l'intervenant de tout à l'heure, a parlé des prescriptions médicales. Et vous comprenez que déjà, parce que d'abord, les échantillons qui ont été prélevés sont d'une personne. De deux, la prescription porte sur un autre cas qui n'est pas peut-être de la malaria pour des échantillons des résultats des fièvres typhoïdes. Troisièmement, vous allez aussi dans une pharmacie où vous rencontrez un pharmacien qui vous dit non, nous n'avons pas ça, mais nous avons des similaires. Ou les pharmaciens, je présume qu'ils sont pharmaciens, vous disent que non, je ne sais pas déchiffrer même l'écriture. Or, c'est là, donc il y a à tous les niveaux,
c'est un maillon, c'est une chaîne,
et
il y a
le maillon. Vous comprendrez par là qu'à tous les niveaux, l'État, les médecins, les patients, tout le monde doit vraiment être exigeant vis-à-vis de soi-même. Et chacun dans sa responsabilité doit être vigilante. Et c'est pourquoi, là, je vais parler d'un fait des pharmacies que nous avons ici. Je parle sous contrôle du président de l'Ordre des pharmaciens qui, récemment, il a révélé qu'il y avait sur toutes les pharmacies que nous trouvons dans la ville de Kinshasa, seuls 500 répondent aux normes. Quid des autres? Parce qu'à chaque 5 mètres, vous trouvez une pharmacie. Or, la loi dit que ne peut détenir une pharmacie qu'un pharmacien reconnu par détenant un numéro d'ordre des pharmaciens. Mais je vous dis que nous avons des pharmacies sans pharmacien. Même, excusez-moi, je suis pas très dur, mais même un mécanicien aujourd'hui peut vous détenir une pharmacie. Même un couturier peut ouvrir une pharmacie, vous dit non, il suffit de chercher un infirmier ou une infirmière que vous allez engager. Mais c'est dans quel état, où est la protection des patients? Où elle est? Or, c'est là le combat que nous...
Alors, donc, vous proposez un cadre légal, déjà, bon, je ne sais pas comment vous y prendre, quelles sont les mesures d'accompagnement pour, en fait, contraindre l'État à pouvoir les appliquer. Parce que il faut parler quand même au plus pressé, hein, parce qu'aujourd'hui, par rapport au taux, s'il faut regarder des cas, des patients qui sont victimes et abandonnés, parce qu'ils ne peuvent pas rentrer dans leurs droits, faute de moyens, parce que des un et puis des deux, parce que, bon, le médecin semble être plus puissant que le patient, et puis, troisièmement, c'est impunité qui engagerait aussi et qui caractérise notre justice. Alors, donc, de tout cela, comment vous allez vous y prendre concrètement, hein, par où passera, quelles sont vos propositions concrètes?
Oui, là, avant d'y arriver, je vais dire d'abord qu'en attendant que cette loi ou ce cadre légal puisse être mis en place, nous allons nous servir des instruments juridiques qui sont à notre portée pour mettre fin à cette impunité. Ça veut dire quoi? Il y a le code pénal qui réprime l'homicide involontaire, l'homicide par imprudence, par négligence, tout ça. Nous allons nous servir d'abord de ce cadre légal qui nous est offert, en l'occurrence le code pénal. À côté de ça, il y a bien sûr, je vais citer la loi de 2011 sur la protection des personnes vivant avec le VIH/SIDA et personnes affectées. Là, eux, au moins, ils ont déjà un cadre qui les sécurise. Mais en attendant qu'effectivement, qu'il y ait une loi sanitaire qui, bien sûr, bien entendu, aura la partie pénale portant sur les sanctions dans les cas d'inobservance de ce qui aura été soulevé, nous allons faire un travail, comme je le disais, avec le gouvernement. Il faut qu'il y ait une volonté politique. Il ne suffit pas de dire que notre système de santé n'est pas défaillant, qu'il y a bien sûr des efforts qui ont été menés. Nous saluons tout ça. Nous sommes David Ayer. En passant, j'allais omettre de le faire. Je salue, je loue, je félicite la bravoure de nos médecins, de notre système de santé qui a pu faire face à l'Ebola et qui a fait que l'OMS recourt à leur expérience.
Oui, mais parole aux auditeurs d'ailleurs, en passant, il a mis son bilan, en fait, pour un peu, parce que nous avons vu le gouvernement, lorsqu'il cherchait des moyens pour, en fait, s'attaquer à l'Ebola, ils ont médiatisé. Alors maintenant, peut-être l'heure est arrivée au bilan, combien on a utilisé, et pour quelle finalité, et qu'est-ce qui reste, en tout cas dans la caisse, parce que je crois l'exécutif ne possédait, si ma mémoire est bonne, $1 million, il avait besoin de 3 millions à quelque chose pour l'idée, est-ce qu'ils avaient trouvé cet argent? Si oui, alors comment on a utilisé ça? Qu'est-ce qui reste concrètement? Parce que quand il y aura la 8e fois l'Ebola, qu'on utilise la même somme. Voilà, donc on fera un débat, on est en train d'ajouter un peu quelque chose par rapport à ça.
Oui, voilà. il y a ça, et ça va être fait, bien sûr, l'évaluation, mais c'est là que je vais soulever. Ebola nous a tous instruits sur les risques de laisser des poches, des risques sanitaires sur les territoires, car la contagion n'a pas de règles. Elle n'a pas de règles, la contagion. C'est pourquoi il faut que il faut pas attendre, parce que quand les fêtes arrivent ou une pandémie, une épidémie arrive pour dire non, voilà, nous allons, comme on a fait face à Ebola, nous allons être encore, nous allons faire face, nous sommes... Non, là c'est un fait qui est à part. Mais dans les cas, si on doit revenir sur la question comment nous y prendre, c'est là que je disais, il y a d'une part l'État qui doit manifester sa volonté. Bon, vous ne voulez pas qu'on parle de politique, mais c'est une volonté politique, quoi qu'on dise. C'est une volonté politique, parce que si vous ne pouvez pas espérer développer un pays sans se soucier des soins, de la santé de la population. Le Congolais, c'est un produit, l'être humain, c'est un produit, un outil de production. Et pour ça, il faut qu'il soit en bonne santé. Et donc, il y a un travail qui doit être fait de tout, avec le gouvernement, par bien sûr, ça, il faut qu'il manifeste une volonté politique de bien pouvoir être soufflé à cette
proposition.
Les législateurs qui ont un grand rôle, il faut que les députés et sénateurs de ces pays se posent la question. Il faut qu'ils se posent la question dans quel état ils vont, dans quel système de santé où ils vont laisser le pays, où les enfants, nos petits-enfants. Il y a ces problèmes-là. Donc,
bon, les législateurs... Parce que certaines personnes qui ont, qui ont accès aux soins de santé à l'Europe, je crois que ça serait difficile qu'ils l'entendent votre discours.
Mais oui, j'ai entendu une fois un dignitaire qui a vraiment craché sur le peuple congolais en disant que d'ailleurs, je ne me fais pas soigner dans ces hôpitaux. Mais ça, c'est grave. Parce que en attendant, s'il tombe, on a vu des députés qui sont tombés à l'Assemblée nationale au cours des séances plénières. Mais au moment où il tombe...
Les premiers soins. Les soins de première
ligne. On a vu des gens à l'aéroport qui tombent sous les champs. Mais comment est la prise en charge est organisée?
Madame,
une question importante des prises en charge, des services qui sont offerts au-delà de l'accessibilité aux soins.
Alors, on prend les derniers auditeurs, Jules Almachi, Jean-Marc Katananga et Freddy Abouya. Jules, bonjour.
Oh, bonjour.
Vous avez une minute, Jules.
Merci d'abord d'avoir m'accorder la parole.
Rapidement, vous avez une minute, Jules.
Allô?
Vous avez juste une minute, parce qu'on n'a plus assez de temps.
En tout cas, à tout ce que mes prédécesseurs viennent de nous dire, là, c'est vrai. Donc même ici chez nous, il faut voir les hôpitaux.
Voilà, si je comprends bien, Jules, vous confirmez, vous appuyez tout ce que les autres ont dit à l'amont, donc vous appuyez. Jean-Marc, vous êtes à Kananga, bonjour Jean-Marc.
Bonjour monsieur le journaliste, je dis également bonjour à notre invité. Je voudrais demander ceci. Il y a des cas qui ont un caractère infractionnel, tel est le cas de l'euthanasie, mais qui n'est pas érigé dans notre législation congolaise. Maintenant, je demande à notre invité du jour, par rapport aux droits des patients, quelle solution sera donnée à un médecin qui administre, par exemple,
des
substances qui peuvent donner la mort à un patient. Quelle sera maintenant la solution, vraiment?
Merci beaucoup, Jean-Marc. Freddy, vous êtes à Bounia, bonjour. Freddy, vous êtes avec nous?
Oui, je vous écoute. Bonjour. Oui. Bonjour à notre invité.
Rapidement, vous avez 30 secondes.
Alors, moi, j'allais intervenir, j'ai ma préoccupation parce que je viens de suivre la dame
et je viens de jeter des fleurs parce que ce sont de tels hommes, de telles femmes que nous avons besoin dans notre pays qui soulèvent de tels
faits. C'est vraiment fondamental.
Parce que la santé, c'est la santé pour nous, c'est une chose qui est vraiment très très capitale pour tout le monde, parce que tout le monde a besoin de la santé. Si elle avait dit que ça, c'est une défaillance au niveau de l'autorité de l'État, et on ne peut pas contredire ça. Parce que celui qui est garant et qui est responsable de cette population, c'est l'État. Bien que l'État ne peut pas donner à tout et chacun de nous 100 francs pour que nous puissions nous faire soigner, mais ce n'est pas ce niveau où nous trouvons des malades. Une femme qui vient de donner la vie à une personne, et cette femme va mourir à cause de l'argent parce qu'elle n'a pas de l'argent pour se faire soigner, on doit abandonner cette femme à son triste sort elle-même parce qu'elle n'a pas cet argent, et on l'abandonne comme ça, et la femme va mourir parce qu'elle manque de l'argent. Et j'ai vu ça quand j'étais une fois que c'est ça, au camp Kokolo, les femmes des militaires, que nos militaires, les militaires qui sont le qui gardent, qui protègent, qui sont au service de l'État, parce que ces derniers n'ont pas de l'argent. Et vous allez voir que ces femmes sont
allées. Dommage, on ne peut pas continuer avec vos prédits. On est obligé de vous arrêter.
Elles sont négligées.
Voilà,
elles n'ont pas d'argent. Quand elles demandent de ne faire rien, bon.
Voilà, désolé, on ne peut pas continuer parce que l'État nous fait défaut. Madame, en une phrase, qu'est-ce qu'on peut retenir? Maître Elodie.
Ce qu'on peut retenir en une phrase, c'est qu'il y a un travail qui doit être fait avec l'État congolais qui doit vraiment prendre des mesures efficaces dans l'amélioration des services de santé offerts à la population congolaise, par entre autres en mettant en place un cadre légal qui sécurise les patients. De l'autre côté, il y a un appel qui est fait aux patients, à toute la population congolaise, pour leur faire comprendre qu'ils ont un cadre qui leur offert pour un cadre d'information, un cadre de dénonciation, mais aussi un cadre de conciliation, comme nous avons dit tout à l'heure. Et nous rappelons aux médecins que nous encourageons, nous félicitons le travail, nous reconnaissons qu'ils exercent leur travail dans des conditions particulièrement difficiles, mais ne peut pas ce fait ne peut pas faire à ce qu'on puisse.
Dommage, on ne peut pas continuer. Merci, Madame Elodie Mourou-Dirois. Merci également à Willem Lungamba, à Piro et la Mégie qui ont concouru à la production de ce programme. À vous tous, chers auditeurs, joyeux Noël et bon année.